Blanc large.
Blanc large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Blanc large. Blanc large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Emmanuel Reva, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes à Salvans, c'est là que vous m'avez donné rendez-vous. Pourquoi ce village de Salvans? On va parler du parc naturel régional de la vallée du Trien. On en est dans le cœur?
On est au cœur de ce projet de parc naturel de la vallée du Trien. Salvans, c'est mon lieu d'origine en fait. Et puis c'est aussi maintenant mon lieu de vie depuis 15 ans, donc c'est un lieu qui est très cher à mon cœur.
Donc famille vient de Salvans, expatrié, vous êtes né vous à Saint-Maurice, c'est ça?
Oui, j'ai grandi à Saint-Maurice exactement, mais toute ma lignée paternelle vient de Salvans. Je venais ici pour mes vacances d'été en fait, et puis j'ai choisi avec ma famille de revenir aux sources et puis de vivre dans une maison qui a été construite par mes ancêtres.
Alors vous êtes député hein, des Verts, on en parlera peut-être un petit peu. On connaît bien évidemment votre frère qui a présidé la commune de Saint-Maurice, Damien, pendant plusieurs années. En venant, en effet, je me demandais si lui avait quitté Salvans pour Saint-Maurice ou vous, Saint-Maurice pour Salvans. Du coup, vous nous l'avez expliqué, c'est un retour aux sources, mais vous venez de la plaine, quoi.
Exactement. Et puis lui, il a aussi fait un petit retour aux sources parce qu'il a récemment acquis un chalet dans le vallon de Vaux.
Hein, donc on ne se détache pas si facilement de cette vallée et de ce coin de Salvans. On a de la chance, hein. il fait beau, il fait un peu printemps mitigé comme on en a l'habitude dans ce printemps 2024, mais on a un petit peu de soleil pour cet entretien. L'étincelle politique, hein. Moi ça fait une petite quinzaine d'années maintenant que je suis à Radio Chablais, j'ai beaucoup parlé avec votre frère, j'ai beaucoup entendu parler de votre frère, puis tout à coup vous avez surgi, hein, le deuxième frère, autre parti politique. D'où vous est venue l'envie de vous engager vous aussi?
Alors, bon, c'était pas du tout prémédité, en fait. Hein. En 2017, on m'a approché pour me demander si j'étais d'accord d'être candidat pour les élections cantonales, pour le Grand Conseil. Et puis, après, je nourris, en fait, depuis longtemps, quand même, beaucoup d'intérêt pour tous les sujets politiques, notamment, évidemment, ceux qui sont liés à la nature et à l'environnement. Je pense que c'est lié à quelque chose qui remonte de très loin, déjà dans mon enfance ou dans mes passions, parce que j'ai toujours développé un grand attrait pour la nature. Ensuite, j'ai concrétisé ça dans mes études, parce que j'ai fait des études de biologie. J'en ai fait mon métier aussi. Et puis finalement, la politique, je me suis rendu compte que c'était une autre façon de m'engager vraiment concrètement pour la préservation de notre nature et notre environnement.
On trouve plusieurs profils dans les engagements politiques. Vous venez de nous dessiner plus ou moins le profil de l'expert, hein, celui qui par ses connaissances se dit il faut que j'agisse, il faut que je m'engage. On a des profils plus militants, on ne vous sent pas très militant par contre dans ce sens-là.
Alors, expert, alors oui, je peux accepter cette étiquette parce que ça correspond...
Expert d'une partie de la question, hein, voilà, entendons-nous.
C'est vrai que ça correspond à ma formation. Moi, j'ai étudié l'écologie, en fait, à l'université de Neuchâtel. Alors, l'écologie a ce sens scientifique à la base, en fait. Mais c'est vrai que maintenant, quand on en parle, on pense souvent à la connotation plutôt politique. On protège bien que ce qu'on connaît, je pense. Et c'est... Aussi, j'essaye en fait, avec la politique, de transmettre des connaissances ou finalement des arguments qui sont basés sur des faits, parce que souvent c'est un petit peu ce qui fait défaut dans la politique, c'est qu'on part un peu vite dans des théories qui sont finalement déconnectées de la réalité.
On se frotte aussi à un monde différent, hein, celui de la lenteur, celui de la persuasion, celui où parfois un argument qui vous semble absolument diaphane, logique, irréprochable, va achoper à des réalités politiques différentes. J'avais pu en parler il y a quelques mois dans cette émission avec Valentine Piton, hein, conseillère nationale des Verts qui a fait un mandat à Berne, climatologue, donc elle aussi arrivant avec cette étiquette d'expertise et puis trouvant au final, malgré ses connaissances, une vraie frustration, hein, dans la façon de transmettre et de voir si c'est reçu ou pas. Mm-hmm. Vous pouvez la connaître aussi, cette frustration?
Ah, totalement. Après, c'est clair que c'est un apprentissage aussi. Je pense que ça permet aussi, finalement, les scientifiques ont besoin, s'ils se frottent un peu à la politique, ils s'ouvrent l'esprit parce qu'ils se rendent compte du terrain réel, en fait.
Le monde est plus vaste que leur spécialité.
Exactement. Hein, ouais. Et puis je pense que c'est un des grands apports de la politique, c'est se rendre compte que les approches du monde sont finalement propres à chacun, et toujours essayer de se mettre dans la tête de l'autre, à la place de l'autre, voir comment il appréhende lui-même le sujet pour mieux comprendre finalement ses arguments, puis aussi trouver des meilleurs arguments pour lui proposer des solutions et finalement arriver à ces fameux compromis qu'on cherche éternellement dans notre pays.
C'est une image de vert raisonnable. Là, j'ai pu discuter de ça avec le président de Salvan qui co-préside avec vous ce parc naturel régional dont on va parler, Florian Piazenta. Je lui disais, c'est bien, on peut travailler les verts, le PLR ensemble sur un projet commun. Puis il m'avait répondu, c'est un vert raisonnable. Et je lui avais rétorqué, vous êtes peut-être un PLR raisonnable aussi. Il faut être raisonnable des deux côtés pour bien discuter. Mais l'étiquette du vert raisonnable, ça vous fait plaisir, ça vous énerve parfois?
Non, honnêtement, ça me fait plaisir parce que je pense que c'est ce que j'essaye de faire dans mon action, on va dire, politique, même dans mon quotidien professionnel où là aussi je suis confronté à des enjeux de, on va dire, protection de la nature, des espèces, mais où je suis en permanence en contact avec des, par exemple, des agriculteurs qui ont eux-mêmes leurs contraintes, leur monde à eux, leur vision à eux.
Et leur vraie angoisse vis-à-vis de l'avenir.
Exactement. Ouais. Et puis je pense que c'est absolument impossible d'avancer avec des vérités toutes faites, de les imposer aux autres. On va vers des blocages et puis c'est des voies sans issue. Et puis moi, je suis vraiment convaincu qu'on doit chercher en permanence la voie du compromis. Puis finalement, l'écologie, si on discute avec beaucoup de monde, on se rend compte en tout cas qu'individuellement, chaque personne nourrit un peu ce souci. Tout le monde aime la nature chez nous. Hein. Vous ne rencontrez aucun politicien qui n'aime pas les paysages, se promener en montagne, etc. Après, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on se rend compte que quand on est dans l'arène politique, je pense que c'est le fonctionnement qui crée un petit peu cette situation, mais les groupes se recristallisent et les positions se recristallisent. C'est ça qui parfois est un petit peu désarmant pour moi.
Il y a un sens des priorités, hein, on a l'impression. Mais d'ailleurs, on voit ça avec notre rôle à nous, journalistes. Hein. Tout à coup, le médiatique prend le dessus. Et puis, quelque chose qui semblait extrêmement prioritaire, le climat, par exemple, est remplacé par la guerre, par l'inflation, par le truc. Et puis, ça redescend dans la pile, quoi.
Alors les priorités, c'est clair qu'alors elles changent vraiment au gré des vents. Ça, c'est vraiment frappant. Hein. Effectivement, on l'a vu avec le climat, les épidémies, les guerres. Et donc, il faut toujours rester très modeste, même avec les succès politiques, en se rendant compte qu'ils sont souvent, malgré tout, que passagers. Avec les Verts, ce qu'on peut quand même voir, c'est il faut dézoomer, en fait. Et puis, regarder ce qui s'est passé depuis 30 ans en Suisse au niveau de la prise de conscience. Et puis là, on a plutôt ça incite, je dirais peut-être plus à l'optimisme. C'est clair que si on a
c'est ce qu'on appelle la bataille culturelle, hein. Finalement, ça, j'ai eu l'occasion d'en parler souvent avec des élus verts. Il y a des revers, ça a été le cas aux dernières élections fédérales, mais il y a une bataille culturelle qui est en train de se gagner. Comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas un politicien qui n'aime pas la nature, mais il n'y a pas non plus un citoyen qui n'a pas aujourd'hui à l'esprit, même si c'est antagoniste, même s'il veut lutter contre, qui n'a pas à l'esprit cette question d'un changement sur lequel on doit bien réagir.
Voilà, ça, c'est vrai que ça correspond à une lame de fond, je pense, dans les mentalités. Après, c'est vrai que le gros défi, c'est de traduire ça dans les décisions politiques et puis dans les actes citoyens. Ça, c'est un immense défi. Puis aujourd'hui, malgré tout, on associe encore souvent tous les intérêts de la nature comme des intérêts qui vont contre soit notre économie, d'autres intérêts privés. Puis c'est pour ça, je pense, que dans les parlements, que ce soit dans les cantons ou à Berne, si on analyse intervention après intervention, on se rend compte quand même que la nature, elle se prend beaucoup d'attaques. Et c'est contradictoire, je pense, avec les aspirations profondes des individus, finalement.
Bon, réconcilier la nature et l'économie, c'est tout le sens de ce parc naturel. Hein. On va en parler principalement dans la deuxième partie de l'émission. On a bien compris, pour vous, le compromis, qui est une sorte d'essence helvétique, hein, ça va lentement, mais ça permet d'aboutir à des choses, contrairement à la vitesse qui peut-être amène des blocages, on l'entend bien. Vous nous avez dit que vous êtes biologiste. On nous dit souvent que dans les Alpes, le changement climatique est beaucoup plus fort qu'ailleurs en Europe. Est-ce que vous le constatez? Alors, je ne sais pas si votre travail, c'est vaste, la biologie, et j'y connais pas grand-chose, mais si votre travail consiste aussi à mesurer cela?
Alors, nous, dans notre activité, quand on observe la nature, hein, aussi de façon scientifique, c'est vraiment quelque chose qu'on constate tous les jours, hein, le changement. Rien que depuis ici, hein, les forêts qu'on a sous les yeux, moi je les regarde tous les jours. Et puis on voit les changements presque en direct, en fait. Les espèces d'arbres qui sèchent, qui meurent, qui sont remplacées très progressivement par d'autres, les oiseaux qui changent leur répartition dans les Alpes, évidemment tous les
qui changent leur temps dans l'année aussi,
oui, qui changent leur phénologie, les oiseaux alpins qui tirent la langue, ça c'est vraiment quelque chose qu'on perçoit si on est en contact avec la nature. Le changement climatique, alors on le perçoit mais très profondément.
Et particulièrement en montagne, justement.
Particulièrement en montagne. Dans les Alpes, le réchauffement va deux fois plus vite qu'ailleurs. On est à un terrain expérimental à la pointe de cette problématique du changement climatique. Ouais.
Alors, on va parler de ce projet de parc régional Vallée du Trien avec une date importante, hein, le 9 juin prochain, votation dans les communes concernées par le périmètre du parc. Je fais une petite précision, hein, c'est que j'en parle avec vous, vous êtes évidemment le coprésident de ce projet, donc vous êtes favorable au oui à cette votation. Il n'y a pas de comité qui a surgi pour le non, hein. C'est pour ça qu'on se permet d'en parler de façon pédagogique, vous et moi, avant le vote, et non de façon militante. Bon, a priori, donc ça se passe plutôt bien. C'est quoi comme étape, très rapidement, avant qu'on s'enfonce dans le lourd pour la deuxième partie de cette émission?
L'étape du 9 juin.
Ouais.
Alors en fait, c'est la décision démocratique en fait des populations des sept communes qui vont choisir s'ils se lancent réellement dans cette aventure à long terme du parc naturel régional. Ça veut dire est-ce qu'ils sont d'accord que leur commune signe un contrat avec l'association du parc naturel régional et ainsi que leur région soit labellisée parc naturel régional pour une durée de 10 ans qui est ensuite renouvelable.
Voilà, durée, label contrôlée par la Confédération. C'est la Confédération qui attribue ce label.
Exactement, c'est un label attribué par la Confédération, c'est juste.
Avec, au même titre que les autres parcs naturels du pays.
Oui.
On va justement parler de ce parc, d'où on en est avec vous dans la deuxième partie de cette émission.